Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque les hommes se tiennent en présence d'une parole tenue par eux pour vraie, pour divine, en présence d'une vérité supérieure qui est énoncée, il y a pour eux trois attitudes possibles. La première, elle consiste, attitude très moderne, à conditionner son obéissance à sa compréhension, à se dire « tant que je n'ai pas bien compris, je ne me soumets pas, je voudrais vérifier avant de croire ». La deuxième posture, elle consiste à obéir immédiatement, en s'interdisant et en interdisant toute interrogation jugée irrespectueuse. Et cela, vous l'avez aussi bien dans l'islam que la religion sanitaire actuelle à laquelle la grande majorité de la population d'Occident s'est aveuglément soumise. On ne se pose pas de questions, on obéit. Et puis il y a aussi, troisième attitude, celle qui consiste à obéir immédiatement en raison de l'identité, de l'origine de la vérité. S'il s'agit de Dieu qui parle, pourquoi hésiter ? Il n'y a pas de raison. Mais alors, en ne s'interdisant pas de s'interroger et même d'interroger celui qui nous parle alors. Plus que cela, pour ce qui est de la révélation biblique, celui qui parle nous prie de l'interroger. On peut reconnaître ici tout le christianisme et d'abord le judaïsme. On l'a entendu en première lecture avec la scène du livre de Néhémie, magnifique. Quand on voit l'émotion qui saisit tout le peuple qui écoute la loi qui a été retrouvée, elle a été oubliée, elle a été retrouvée, avec un mélange de déférence et de joie immense, on accueille cette loi à nouveau énoncée publiquement, on la célèbre, et avec l'aide des scribes, avec l'aide des lévites, on va traduire d'abord, expliquer le sens de cette loi. Quant à la scène de l'ouverture du rouleau du prophète Isaïe dans l'évangile de Luc, elle est inaugurale pour l'évangile de Luc. Jésus annonce, en commençant son ministère en Galilée, que tout est en train de s'accomplir en sa personne, en lui. Et on peut dire que la suite de l'évangile, tous les chapitres qui vont suivre jusqu'à la fin, le ministère de Jésus sont une exposition continue, un enseignement, une explicitation du rabbi Yeshua, mais qui fait suite de ce premier accueil dans la foi. Tous avaient les yeux fixés sur lui, on est en train de comprendre qu'il parle, et à partir de cet acte de foi, de confiance qui est posé, alors on va approfondir. C'est d'ailleurs le même Saint Luc qui rapporte l'épisode du jeune Jésus interrogeant les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem, quand il était tout jeune, à 12 ans, qui précise aussi, nous venons de l'entendre, dans l'exergue de l'évangile, que son récit est dédié à Théophile et qu'il écrit cet évangile, je cite, « afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus ». C'est bien que tu t'en rendes compte. Tu crois, c'est bien, mais grâce à ce récit, en lisant l'évangile, on peut imaginer que Timothée a déjà été instruit, qu'il est même déjà disciple et peut-être baptisé, mais un disciple n'est pas tant une personne qui a reçu une instruction qu'une personne qui a plutôt compris, et j'espère que c'est notre cas à chacun d'entre nous, qu'il devait sans cesse se laisser former par le Seigneur, à sa parole. Et c'est ce que je voudrais un petit peu développer ce matin. Bien sûr, en présence de la loi, qui est un résumé de l'attitude à adopter pour suivre le Seigneur, on peut dire que tout est là, tout est dit et c'est bien suffisant. Bien sûr, en présence de Jésus lui-même, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui, on peut dire que cela nous suffit, comme dira Sainte Thérèse d'Avila, quand on a Jésus, on a tout. C'est vrai qu'il y a une attitude fondamentale, initiale, très nécessaire, qui consiste à accueillir le tout de la foi sans hésiter, sans réserve. C'est ce que font sans doute... Isabelle, vous ne contredirez pas, les catéchumènes en se présentant, en disant, voilà, on se forme au baptême, on accueille le tout de la foi, et ensuite on le dépiote, on l'explicite grâce à vous. Comprendre, Comprendre étymologiquement, vous le savez, ça veut dire prendre avec soi, au sens radical du terme. Ce n'est pas la définition cartésienne française, conditionner notre accueil en fonction de ce qui rentre dans notre caboche. C'est d'abord prendre avec soi, tout. J'aime beaucoup la parabole du trésor dans le champ, au chapitre 13 de Matthieu. Un homme trouve un trésor dans le champ, et pour avoir le trésor, il est obligé d'acquérir l'entièreté du champ, tout. Et ensuite, il va pouvoir faire l'inventaire du trésor qu'il a acquis. Et cette possession, de ce qu'on appellera d'ailleurs le dépôt de la foi, elle n'est pas tant quantitative que qualitative. Vous savez, il y a des saints dans l'histoire du christianisme qu'une seule parole divine a nourri toute une vie. Certains anachorètes des premiers siècles n'avaient pas de Bible sur eux, mais ils avaient mémorisé 3 ou 4 paroles de Dieu, de la révélation divine, et s'en sont nourris toute une vie. C'est là qu'il y a une petite ambiguïté dans ces mantras que nous répétons parfois, il faut connaître toute la Bible, oui, oui mais non en fait. Il faut surtout connaître la parole de Dieu. On peut être un savant et connaître sur le bout des doigts chaque verset des 73 livres bibliques et passer parfaitement à côté de la parole de Dieu, hein, c'est pas un problème. Ce n'est pas une connaissance quantitative et scientifique. Et dans le même esprit, vous voyez, le curé d'Ars ne s'est jamais rendu dans la dite Terre Sainte. D'ailleurs, son esprit de pauvreté n'y aurait pas consenti. Mais il est probable que cet homme ait mieux connu le mont Golgotha que bien des pèlerins qui s'y sont rendus à grands frais. Combien de mystiques, cloués sur un lit de souffrance, connaissent profondément la parole de Dieu, l'une ou l'autre parole, parce qu'ils l'ont expérimentée dans leur chair. Saint Benoît Labre, qui sillonna l'Europe entière, c'est le saint patron des SDF, des vagabonds, qui se contentait de peu, mais possédait ce peu comme personne. Et il disait, ce que je connais de Dieu n'est pas grand-chose, mais ce pas grand-chose me comble de joie. Ou Thérèse de l'Enfant Jésus, vous la connaissez tous. En plus, on a une statue d'elle en entrant à gauche. Depuis le petit Carmel de Lisieux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on dirait une maison de poupée. On se demande comment une vingtaine de femmes peuvent tenir là-dedans. Et bien pourtant, dans ce lieu exigu, elle a accompli un parcours spirituel à pas de géant, comme elle le dira elle-même, en moins d'une dizaine d'années. Sans doute n'a-t-elle jamais lu l'intégralité de la Bible, mais elle la connaissait, paradoxalement, de façon profonde et intime. Comment expliquer cela ? Peut-être que pour le comprendre, il faut regarder le mystère de l'Eucharistie. Vous savez que le mystère de l'Eucharistie, il éclaire tous les autres mystères. Et nous disons dans la foi que Dieu n'est pas plus présent dans un ciboire contenant 350 hosties consacrées que dans une toute petite parcelle grande comme une tête d'épingle. Substantiellement, le Seigneur est présent. C'est la même chose. Dans une parole de Dieu, si elle est bien goûtée, accueillie, intégrée dans la foi, nous pouvons davantage rencontrer et comprendre la pensée de Dieu que dans une quantité invraisemblable de versets de la Bible. Ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif, d'abord du côté de la parole de Dieu, qui est toute contenue dans chaque verset de l'Écriture, qualitatif de notre côté, c'est-à-dire lié à l'acte de foi, de confiance initiale que nous posons. C'est ça la possession qualitative de la foi. Je sais en qui j'ai cru, comme l'écrira Paul à Timothée, en qui je crois, qui est présent et qui me parle. Ils avaient leurs yeux fixés sur lui, dit l'Évangile. Alors après avoir dit cela, cependant, bien sûr, et je vais y insister, après avoir insisté sur cette confiance initiale et entière, affirmer que la foi consistait d'abord, en premier lieu, en un abandon sans retour, complet, comme celui d'un enfant qui se jette dans les bras en fermant les yeux. Vous voyez, les enfants, ils se jettent dans les bras, ils ferment les yeux. Ça, c'est le premier mouvement de la foi. L'excellence et la supériorité du christianisme consistent précisément à ouvrir les yeux pour comprendre davantage, pour que le mystère accueilli se déploie sous nos yeux admiratifs et reconnaissants. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. voyez, dimanche dernier, pour ceux qui suivent, nous étions à Cana et je vous disais que peut-être, je l'espérais avec vous en tout cas, là, il y aurait une floraison de boutons de christianisme qui n'avait pas encore éclos et que peut-être que le meilleur restait à venir, comme dans le miracle de Cana où le bon pinard est gardé pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça, c'est vrai pour une lecture historique du christianisme, mais je crois que nous pouvons et devons le dire dans notre foi, dans notre parcours de foi individuel, personnel. Il faut que nous croyions qu'il y a encore des dimensions, des vérités de foi qui doivent se déployer, s'ouvrir dans notre cœur. Et cela pourra se faire si nous fixons les yeux sur Jésus. Je me disais, vous savez, quand on apprend une langue étrangère au début, ou alors quand on souffre de surdité, peu ou prou, il est important de pouvoir lire sur les lèvres, surtout au début. Eh bien, l'audio ne suffit pas. Pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut pouvoir regarder, au moment où nous écoutons la parole de Dieu, le visage du Verbe incarné, avoir les yeux fixés sur Jésus pour vraiment comprendre ce qui nous est transmis. L'audio ne suffit pas. L'écoute de la parole de Dieu est une contemplation. Et voilà. On a donc besoin d'un visage pour comprendre. C'est pour ça qu'un visage ne se voile pas et que le voilement des visages a quelque chose de satanique. Le visage me permet de comprendre et de rencontrer réellement l'autre. Devant le mystère du christianisme, pour saisir la parole de Dieu, il faut ce visage du Christ. Parce que nous serons toujours en train d'apprendre la langue de Dieu. Apprendre la langue de Dieu pour acquérir une connaissance, pas simplement pour approfondir des mystères et satisfaire notre curiosité. Comme j'aime vous le rappeler, je l'ai appris du cardinal Newman, qui fait remarquer que l'essentiel de l'enseignement de Jésus ne nous renseigne pas tellement sur les mystères divins et encore moins sur le ciel et la vie éternelle, même si clairement Jésus la désigne, mais que souvent Jésus développe plutôt l'attitude à acquérir pour pouvoir aller jusqu'au ciel, et c'est bien logique puisque nous aurons l'éternité pour que notre curiosité spirituelle soit satisfaite, pour contempler le mystère de Dieu, de son plan de salut, mais que l'urgence pour le moment, c'est de se laisser sauver en tenant la main du Christ, en accueillant le salut. Et donc quand je dis comprendre la parole de Dieu, c'est comprendre ce qu'elle bouleverse dans mon existence. Même si je ne comprends pas toujours, je tiens à le souligner, le bien fondé de ce que Dieu m'indique. Il y a pas mal de domaines dans lesquels les chrétiens ne saisissent pas immédiatement de façon évidente la sagesse qui inspire la parole divine. Pourquoi il est impie, par exemple, pourquoi est-ce un péché de vivre, je prends cet exemple parce qu'il est assez répandu, de vivre avec une personne que nous aimons, comme mari et femme, sans avoir placé cette alliance explicitement sous le regard de Dieu, sans que le sacrement du mariage ait été donné. C'est pas forcément évident à comprendre du premier coup, et pourtant c'est très clair dans la parole de Dieu. Et on peut le savoir, et on fait bien de l'admettre, c'est inspiré, sans le comprendre, sans l'avoir vraiment pris avec nous, et pourtant il faut le faire. Alors soit on se dit « j'obéis, c'est Dieu qui le demande », et puis on s'arrête là, soit on se dit « bon, j'obéis, je me soumets, mais je vais essayer de comprendre ». Celui qui me parle, il m'aime. Celui qui me parle, il veut me faire comprendre sa pensée, me faire entrer dans sa sagesse. Et j'obéirai plus profondément en adhérant à la pensée, en comprenant le dessein miséricordieux du Père. Frères et sœurs bien-aimés, croyons-le, il n'est pas une seule dimension de notre vie personnelle ou de la vie sociale et donc de l'actualité qui ne soit pas éclairée de la parole de Dieu. On ne fait pas toujours le lien. Mais il faut justement cet effort de notre part. Dans 3 mois, ce seront les élections présidentielles, les débats ont déjà commencé. Notre écoute attentive devrait déjà être éclairé de la recherche de la volonté de Dieu. Parce que l'élection que nous allons faire, ce que nous faisons dans l'isoloir, c'est un acte humain qui nous engage non seulement à l'égard de la nation, mais à l'égard de Dieu qui est tout disposé à nous éclairer, à éclairer nos consciences, pourvu qu'on ne limite pas notre foi à ce que nous croyons savoir. Je me réjouis profondément, dans notre paroisse, de voir que tous les mardis, le petit conseil pastoral que nous formons, on l'ouvre en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu. On lit ensemble l'évangile de ce dimanche. Mardi, on lisait, on méditait cette parole ensemble. On demande d'abord, avant d'échanger, au Seigneur de nous éclairer. Il y a les collégiens et les lycéens qui, chaque semaine, se retrouvent aussi. On est en train de suivre la série The Chosen en ce moment, extraordinaire, Bible à la main, pour goûter pas après pas de cet évangile que le Seigneur nous a donné. Chaque semaine aussi, un petit groupe d'étudiants et de jeunes professionnels avec Evan se met à l'écoute de la parole de Dieu. Chaque mois aussi, on vous propose une formation par les moines dominicains qui viennent nous enseigner. C'était hier, la salle Saint-Louis était remplie, très majoritairement de paroissiens qui viennent recevoir pendant 2 heures, il y a une pause avec le thé, hein, mais un bel enseignement. Et je les ai vus à la sortie, ils m'ont dit « ça nous a vraiment nourris ». Ça me réjouit tout cela, parce que c'est bien l'esprit du christianisme qui est là. C'est faire preuve d'intelligence que de se savoir ignorant. L'humilité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est qu'une fois qu'on a rencontré Jésus, qu'on l'a accueilli dans sa vie, qu'on a plus ou moins conformé sa vie à sa volonté, il y a encore beaucoup à faire. Il importe de l'écouter, d'approfondir le mystère, de lui permettre d'éclore au fond de notre cœur, pour que nous portions du fruit, pour que nous sachions aussi témoigner avec plus de fidélité, pour que nous grandissions dans l'amour de Dieu, car comment prétendre aimer en cessant d'écouter avec passion ? Seigneur Jésus, nous t'aimons. Rien ne saurait ravir la première place que nous voulons t'accorder dans nos vies. Et puisque nous sommes en ta présence, rends-nous attentifs à cet enseignement que sans cesse tu ne cesses de nous donner. Avivons-nous le désir de connaître et de goûter à ta parole, d'en saisir la portée, d'aimer la partager. Forme nos cœurs de disciples en nous apprenant à fixer nos yeux sur toi, à t'écouter. Je le reconnais, Seigneur, il y a bien des exigences et des appels dont je n'ai pas encore saisi la portée, la gravité, la beauté. Fais éclore en mon cœur toutes tes paroles pour que je puisse courir joyeusement sur la voie de tes préceptes, parce que tu as les paroles de la vie éternelle et que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen.